Robert Bobert, nous aimerions maintenant évoquer vos rencontres, vos amitiés et le travail collaboratif, le travail que vous avez pu mener sur le long cours, car il nous semble que vous êtes fidèle en amitié, avec différents artistes, documentaristes, écrivains. J'aimerais tout d'abord vous lire un extrait de Par instant, la vie n'est pas sûre, qui est aussi un extrait de votre documentaire « Réfugiés provenant d'Allemagne, apatrines d'origine polonaise », puisque vous avez l'habitude de mettre à l'intérieur de vos romans vos films. Donc la citation sur laquelle la citation que je voudrais que vous commentiez est une citation du prologue de ce film. Où vous parlez de photographies de Walker Evans. Et à propos de ces photographies, vous écrivez et vous dites « La relation devient alors une activité essentielle car elle permet seule ce mouvement réciproque d'où naît le véritable dialogue fait de mots, de regards, de silence. » Est-ce que cette phrase pourrait servir de définition aux liens et aux amitiés que vous avez eues avec Pierre Dumayet et avec ceux avec qui vous avez travaillé et cheminé dans la vie?
Oui, pas seulement pour le livre et les films, mais pour la vie de manière générale. Lorsque j'ai lu Les racines racidiques de Martha Buber, j'ai compris des choses que j'avais vécues et dans lesquelles je me retrouvais complètement. Voilà, c'est ce mouvement réciproque. Et du coup, j'ai lu tous les récits racidiques, même si on n'en comprend qu'un sur dix, peu importe, parce que comme il y en a 10 millions, il en reste donc suffisamment. Et donc je suis mis à lire Martha Buber, bien que j'ai aucune formation de tout ce qui touche à la philosophie, ça je regrette. C'est lorsqu'on lit le jeu et tu, il y a une phrase essentielle, c'est au commencement et la relation. Alors ça, je n'ai pas besoin de le coller derrière moi, c'est vraiment dans ma tête. Voilà. Et puis, il y a une phrase dans la préface de Je et tu de Gaston Bachelard qui est « Il dirait ce qu'il est avant de dire ce que par la rencontre il est devenu. » Donc ces rencontres ont toujours été essentielles pour moi. Alors, c'est du coup, alors que j'avais pensé avant dans le métier que j'avais fait précédemment, que finalement tout ce que j'ai fait avant, les colonies de vacances, les ateliers, j'étais tailleur, etc., que tout s'est passé grâce aux rencontres. Et sans rencontres, on n'est rien. Enfin, si on est un peu quelque chose, on espère l'être également pour les autres. Mais ça marche toujours dans les deux sens. C'est pourquoi, quand je filme, par exemple, j'avais toujours été frappé et quand j'étais assistant et que j'entendais le réalisateur dire aux gens ne regardez pas la caméra, faites comme si on n'était pas là. Alors, on ne sait pas comment sont les gens quand on n'est pas là. Et qu'il fallait au contraire tenir compte des regards à la caméra. Les regards à la caméra, c'est une question que les gens nous posent, même si elle n'est pas, même si ce n'est pas dit. C'est dit avec les regards. J'aime bien les gens qui écoutent avec leurs yeux également. Voilà. Et c'est ce qui m'a conduit à faire, je me suis rendu compte de l'importance donc de toutes ces rencontres. Après la guerre, quand j'avais 15 ans, 16 ans, etc., dans les ateliers, et que dans ces ateliers, il y avait la moitié des personnes qui avaient un membre de leur famille déporté, voire les deux. Et toute cette relation que j'avais avec ces personnes, avec qui que je voyais tous les jours, voilà, tout ça, s'il n'y avait pas eu ça, je n'aurais certainement pas écrit, je n'aurais peut-être pas fait de film non plus. Enfin, j'avais besoin de cette relation. Alors voilà, c'est ce qui a, ces rencontres, c'est ce qui ont dirigé ma vie, je crois. Alors, il ne faut pas se tromper dans les relations non plus, ça c'est un autre boulot.
Et vous avez tourné beaucoup de documentaires avec Pierre Dumayet en particulier. Et on sent dans la façon dont vous parlez de lui dans les souvenirs que vous pouvez évoquer de tournage, une réelle complicité entre vous. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que lui vous a apporté? Et ce que vous lui avez apporté pour faire œuvre commune.
Alors c'est plus facile de dire ce qu'il m'a apporté que de dire ce que moi je lui ai apporté, mais enfin je pense que je lui ai apporté quand même quelque chose puisque on a continué à travailler et que j'étais devenu son réalisateur, enfin, trouver un nom, un mot autre que privilégié. Enfin bon, j'ai eu ce privilège en tout cas. Et il s'est trouvé que on faisait à quatre une émission de variété en 68 qui allait à l'encontre de toutes les émissions de variété avec un éclatement des lieux scéniques en mettant successivement des musiciens classiques et du rock, voilà, des chanteurs. Et puis on a fait une émission alors sur des thèmes. On avait fait une émission qui a été très mal reçue sur le thème de la religion. Et comme on faisait les choses, pas comme tout le monde, la direction des programmes ne visionnait plus nos films. Et ils ont eu la mauvaise idée de passer ce film un jour saint, je ne sais plus lequel c'était, enfin en tout cas, jour très très très. Et le standard de cognac que j'avais a été bloqué au bout de 10 minutes. Il y avait un curé qui faisait des claquettes avec des petits scouts, il y avait un tas de choses comme ça. Voilà. Et on a voulu nous virer de la télévision. Et finalement, non, on ne pouvait pas nous virer parce que un réalisateur marche à coup de contrat. Donc on ne peut pas virer quelqu'un qui n'appartient pas à la télévision. Et les producteurs ont tous reçu un mot disant ne faites pas travailler à tel, à tel, à tel, à tel. Et Dumayet, quand il a reçu ça, il dit, moi je voulais connaître ces gars-là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré. J'ai rencontré Dumayet qui m'a fait faire plusieurs documentaires. Et puis jusqu'au jour où il m'appelle, il dit viens déjeuner à la maison. Donc voilà, j'étais toujours. Dumayet était quelqu'un de très impressionnant, hein, parce que des gens, des ministres lui demandaient rendez-vous. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de très important. Et il me dit je voudrais que tu me donnes un conseil. Alors là, j'ai failli tomber de ma chaise. Je ne voyais pas quel conseil je pouvais lui donner. Il dit, je voudrais que tu me conseilles un livre juif. Et c'est comme ça que je lui ai conseillé les récits racidiques. Et il a eu un coup de foudre pour ce livre. Et depuis, on a toujours travaillé ensemble. Alors il écrivait toujours le texte des films qu'il faisait. Et puis, avec les réalisateurs, en disant, oui, mais ça, c'est pas possible, on ne peut pas filmer ça, tout ça. Et il me téléphone, donc un jour, il me dit, écoute, je suis emmerdé, qu'est-ce que t'as? Et bien, j'écris un truc, je n'ai pas du tout ce qu'on pourrait mettre comme image. Ben, je dis, heureusement, si tu savais, tu ferais le film tout seul. Et moi, finalement, que tu ne saches pas, ça va m'obliger à trouver. Et c'est ce qui m'intéresse dans ce métier. Il m'a dit très bien. Et depuis, on a décidé que lui tournait, enfin lui écrivait le texte, moi j'en faisais ce que je voulais, Et on se retrouvait au montage. Alors, bon, il y avait des choses qu'on voulait garder ou pas. Et c'est quelqu'un avec qui je ne me suis jamais, jamais, jamais disputé. Si j'étais pas d'accord sur un truc, il était d'accord. On n'est pas d'accord, on va faire autre chose. Et on rêve des couples qui passent leur vie à ne s'être jamais disputés. Voilà, c'est formidable. Et voilà, se dire, voilà, on se retrouve au montage et on s'est donné une liberté l'un l'autre, formidable. Voilà. Alors, mais on ne faisait rien à l'insu l'un de l'autre, bien évidemment. Tout se faisait en parfaite amitié. Donc, ce que je dois du Maillet, c'est m'avoir appris à lire. Il avait une manière de lire. Beaucoup de gens ont dit, bon, depuis, il y a eu beaucoup d'émissions de télévision sur les livres. Et beaucoup de gens ont dit, maintenant, les émissions de télévision font beaucoup vendre les livres. Du Maillet, lui, les faisait lire. Ce qui est quand même plus important.
C'est un beau compliment.
Oui. Et voilà, donc tout ce que je dois du Maillet découle de tout ça. Après, on s'est vu, on se voyait en vacances, on se voyait, on s'invitait à dîner là chez l'autre, etc. Il a connu ma famille, il a connu la sienne, et ses amis.
Mais je crois que vous avez très bien répondu à la question en disant que vous n'alliez pas y répondre, puisque ce qu'a mené dans l'œuvre commune, ce qu'a mené du Maillet, c'était une voix originale, aussi bien dans la façon de lire que dans la façon de questionner les gens. Mmh. Et vous ameniez un regard original, des plans originaux, comme si effectivement vous vous interdisiez rien a priori et que vous étiez capable d'inventer une prise de vue, un angle qui était adapté à ce qu'il voulait faire.
Oui, j'étais... comme j'avais aucune culture classique, il fallait bien que j'invente des choses. J'étais contraint à les inventer. Mais la contrainte, j'ai appris ça après en travaillant avec Pérec. Le mot contrainte, je n'imaginais pas qu'il puisse être utilisé soit dans la manière de filmer ou soit dans la manière d'écrire. Pour moi, les contraintes, c'était autre chose. Voilà. Et voilà, ça m'a beaucoup appris. Et du coup, grâce à lui, j'ai beaucoup lu. Et pas seulement lu, mais j'ai su comment il fallait lire également. Bon, avec ma sensibilité. Mais quand on a fait lire ses livres, c'était formidable. Quand il interviewait des gens qui n'avaient aucune culture apparente, même aucune culture du tout, et qui rentrait dans un livre, j'apprenais. Voilà, donc j'ai appris petit à petit et j'ai lu des auteurs que j'aurais jamais lus, des poètes. Je ne connaissais pas Pierre Reverdy avant d'avoir travaillé avec lui, et pour moi c'est devenu le grand poète, enfin c'est pour moi en tout cas, le grand poète du XXe siècle.
Je crois que c'est de Pierre du Maillet que vous me dites si je me trompe, je crois que c'est de Pierre du Maillet que vous vient la pratique de souligner les passages que vous aimez ou que vous n'aimez pas dans un livre.
Oui. Et j'ai la fierté de pouvoir dire que beaucoup de gens m'ont dit depuis d'où si on se met à souligner. Voilà. Mais il suffit de prendre. D'ailleurs, je reconnais les livres que j'ai lus avant de le connaître et ceux après. Ceux que c'est apprendre le connaître ne sont pas soulignés du tout, et les autres sont soulignés pour apprendre n'importe quel bouquin, et on voit ça comme ça. Ouais. Mais c'est bien de souligner, ça veut dire qu'il faut s'arrêter sur des moments, réfléchir dessus. Alors je souligne, et puis en fin de livre, je mets un numérotage, et je regarde tel numéro, et je vois. Bon, il y a des gens qui prennent des notes. Des fois, je prends des notes, mais bon, on finirait par tellement de notes. C'est pourquoi je ne dois travailler que dans mon bureau pour écrire par l'instant La vie du posture, où il y a plein de citations. Voilà, je me tourne et puis je trouve. Des fois, je ne trouve pas. Mais en feuilletant, j'en trouve une autre qui est pas mal du tout. Et voilà, les idées se renvoient l'une l'autre.
D'accord. Vous nous avez raconté votre rencontre avec Pierre Dumayet. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre rencontre avec Georges Perec?
Oui. Alors donc ça, c'est un petit peu après. En 75, j'ai lu, à la suite d'une lecture d'un papier de Jean Duvigneau, ça s'appelait Le Nouvel Observateur à l'époque. Donc, je lis une critique de W aux souvenirs d'enfance, qui me donne aussitôt envie d'acheter le livre. Je le lis et je souligne, bien évidemment. Et puis, on avait des amis communs, je parle de ce livre, et ils me disent, mais on connaît Dumayet, ça n'étonne pas du tout que tu aies aimé ce livre.
On connaît Georges Perec.
De Georges Perec, j'ai dit Dumayet.
Et oui. Enfin,
et donc on connaît Perec, et donc on sait, ils nous ont réunis au cours d'un dîner, on s'est tutoyé d'emblée. Et alors il me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors je lui dis, ben, je suis en train de préparer un film que je vais tourner, on était au mois de juin, que je vais tourner en octobre en Pologne, et je lui dis, pourquoi? Ah, mais c'est formidable. Et bon, donc j'en savais un peu plus grâce à W. Et il dit, mais non, moi je n'irai pas en Pologne, je ne peux pas aller en Pologne. Par contre, dès que tu as fini ton film, tu me le montres. Voilà. Donc j'ai tourné le film. Et au cours du film, je montre plein de livres qui ont été importants pour moi, en disant qu'une certaine manière, ces auteurs étaient un peu les auteurs du film que j'étais en train de tourner. Et le dernier livre qu'on voit, c'est W au souvenir d'enfance. Et donc il y a une projection qui se fait dans un cinéma, et il vient vers moi à la fin, et il tombe dans mes bras en larmes. Et il me dit, je t'appelle demain. Il m'a appelé, et puis on s'est vu pour dîner. Il me dit, écoute, voilà, d'une certaine manière, on cherche les mêmes choses, et il faudrait qu'un jour qu'on fasse un film ensemble. Il dit, je ne sais pas lequel, mais un film dans lequel tous les deux, on pourra se retrouver. Donc entre-temps, on s'est beaucoup plus vus. Je lui ai montré des films de moi, j'ai lu d'autres livres de lui, et voilà, une amitié est née. Et puis un jour, je lis dans le journal, dans un journal, je crois que c'était François, que Ellis Island est ouvert au public. Et ça, c'est une information qui ne me vient pas de mes lectures. Et je me dis, c'est peut-être ma mère qui m'en a parlé un jour. Je demande à ma mère, elle me dit oui. Elle me dit, mon grand-père, il est parti de Przemysl, qui était la petite ville de Pologne, et il a tenté l'aventure pour aller en Amérique, et il s'est arrêté à Ellis Island, il a attrapé le trachome, il s'est fait refouler, et il est revenu en passant par Vienne. Je me dis, il y a peut-être là quelque chose, et je raconte ça à Perec. Alors il me dit, écoute, donne-moi 48 heures, je veux savoir comment je peux rentrer dans cette histoire. Et puis il me téléphone, il me dit, on y va. Voilà. Donc on a repéré en 78, on a passé 15 jours là-bas à voir des gens, et puis en 79, on a tourné le film.
Et donc ce film, vous l'avez tourné, mais effectivement avec un projet commun et avec une démarche commune aussi, j'ai l'impression.
Non, non, ce qu'on savait, alors bon, on avait pris entre-temps, on avait lu des ouvrages, on a vu des gens qui connaissaient des gens, voilà, donc on est parti à quelques adresses, on s'est dit on va commencer par essayer de trouver des immigrants, des gens qui sont passés par les Ceylans. Et puis on a visité les Ceylans plusieurs fois avec le guide qui nous emmenait, et en prenant des notes. Et je me suis dit, il y a des photos de Lewis Hine qui voudra faire agrandir. Et je lui ai dit, j'aimerais les placer à l'endroit même où ces photos avaient été faites, parce qu'à l'époque, les Islandes venaient d'ouvrir, puisqu'avant, c'était les immigrants arrivaient par Castle Garden, et puis il y avait tellement d'immigrants qui arrivaient qu'ils ont ouvert ce lieu. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Il a parlé de ce projet plusieurs fois dans les entretiens, et une fois qu'on a fait ce tournage, il a écrit un premier texte, et puis on a tout compris dès les premiers jours qu'on ferait deux films, un film qui serait le nôtre, dans lequel on dirait pourquoi on est là, etc. Et puis un autre de témoignages de gens qui sont passés par là. Voilà, c'est pas du tout. C'est un film à la première personne, du pluriel, puisqu'on était deux. Et l'autre pour donner la parole à tous ces immigrants. Voilà. Et sur le coup, je ne sais pas nous, mais. Sur le coup, les gens n'ont pas eu la conscience de l'importance de ce film. Mais enfin, de toute façon, on ne faisait pas un film pour dire que c'était important. C'est parce que ça correspondait à un désir. Et petit à petit, avec le temps, on s'est rendu compte que l'Islande était devenue une des œuvres majeures de Pérec. Alors, il y a une définition que j'ai retrouvé, donc je me la suis notée. C'est un travail qu'on a fait ensemble. Alors je ne sais pas, j'arrive pas à retrouver dedans. Je ne vais pas regarder tous les documents que j'ai sur ce que Derek a dit. Ça, c'est un aide-mémoire. Voilà. Georges Perec qui a écrit ça. D'ailleurs, de toute façon, on va reconnaître tout de suite ce qu'il dit. Nos démarches, c'est-à-dire la sienne, la mienne, nos démarches n'étaient pas exactement les mêmes, mais elles se rejoignaient quelque part dans une interrogation commune, d'où nous eûmes envie d'explorer ensemble ces prolongements possibles. Ellis Island nous apparut alors comme le lieu même où venaient s'inscrire les thèmes et les mythes autour desquels s'articulait la recherche de notre identité. Voilà, cette recherche d'identité existait déjà en ce qui me concernait, le film que je vais tourner en Pologne.
Alors, je comprends que vos démarches identitaires ne soient pas les mêmes, et
Ah
ce
oui.
qui est très bien expliqué par Georges Perec dans la voix off du film et dans le livre. En revanche, j'ai l'impression que la démarche artistique de l'un déteint sur l'autre.
Ah oui.
Et la manière dont vous filmez les lieux, pour moi, c'est la transcription cinématographique de la manière dont Pérec décrit les lieux avec cette attention. Et également, je vais rejoindre des choses que vous avez dites, cette volonté de s'arrêter. Vous filmez Ellis Island comme vous lisez un livre, en soulignant des passages et en vous arrêtant.
Oui. Et d'autant plus que l'essentiel du texte a été écrit après le tournage. Et pendant le montage. Et il avait besoin de ces images, et moi j'avais besoin. On a travaillé beaucoup sur la connaissance qu'on avait l'un de l'autre. Donc ça c'était important. Par exemple, bon, c'était un truc qu'on cite souvent, c'est. Je connaissais son goût de la description, ça je m'en étais rendu compte. Je me dis, il faut que je trouve un lieu dans Ellis Island qui n'est pas un lieu qui raconte déjà tout, mais un lieu banal, mais essentiel en même temps. C'est la lingerie, l'endroit où les gens lavaient leur linge, repassaient, etc. J'ai fait. Alors on était en film, hein, donc j'étais obligé de faire un plan très très long. J'ai fait un plan fixe de ce film et inévitablement, c'est un texte qu'on retrouve. Il décrit entièrement ce lieu. Voilà, c'était. Des moments de rencontre comme ça. Mais la connaissance qu'on avait l'un de l'autre a fait que rien de ce qui était filmé ou écrit été fait, c'était forcément fait en pensant et à ce qu'on voulait faire et à l'autre. Avec cette différence, puisqu'il dans la description qu'il fait de son rapport à sa judéité et le mien, n'est pas du tout le même, bien évidemment, puisque ses parents ont été déportés, et que moi, j'avais hérité d'une sorte de transmission, ne serait-ce que par la langue.
Et est-ce que vous pensez qu'on peut dire que le parcours que vous proposez, alors Georges Perec par sa voix off et vous par vos images, constitue un parcours alternatif à celui que le guide propose, qui est un parcours plus prévisible, collectif, conventionnel quelque part, sans pause. Alors que vous, j'ai l'impression que dans le film, au début, vous suivez le guide et puis vous partez par des chemins de traverse. Et là, vous vous arrêtez. Vous faites des plans fixes. Il y a des silences.
Oui, j'aime beaucoup les chemins de traverse. Et c'est d'ailleurs, c'est une formule que j'utilise souvent. C'est vrai que alors, le film commence par une fois qu'on est arrivé à Ellis Island, par le guide en dehors du bâtiment qui parle à des touristes. Enfin, touristes entre guillemets, parce que tous ceux qui étaient là avaient quelqu'un qui était passé par là. Et pour l'avoir écouté plusieurs fois, je lui ai dit, alors là, c'est une fierté, j'allais dire une fierté dont je suis fier, mais je lui dis, les gens qui sont là, ils ne sont pas venus faire du tourisme, ils sont venus là pour autre chose. Est-ce que vous pouvez leur demander s'ils sont de la famille qui est passée par là et d'où ils viennent? Alors il m'a dit d'accord. Et j'ai dit, attendez que je filme pour ça. Donc je prépare la caméra. Cette fois-ci, je me suis mis derrière le guide pour voir les gens. Et il leur dit, est-ce que... il y a parmi vous des gens dont les parents sont passés par là, et tout le monde a levé la main. Et de quel endroit? Alors, de Russie, Pologne, etc. Et après, le guide m'a dit, ben, maintenant, à chaque tour, je pose la même question. Voilà, c'est un truc qu'il a rentré dans son discours. Parce que Perec dit, ce n'est pas par hasard qu'on revient sur les Islandes. Et voilà, donc je ne me souviens plus de... Ah oui, voilà, les chemins de traverse. Et effectivement, il y avait... On s'est placé, une fois que ça a été fait, je plaçais la caméra, non pas en filmant les visiteurs, mais en écoutant, en me mettant à la place des visiteurs, mais en les montrant tout de même. On était parmi ceux qui... on s'arrêtait, on les laissait partir, et on revenait après, quand je montre tous les plans, où tout est détruit, etc., ça, on le tournait après, sans qu'il y ait des touristes qui viennent. Et il y a une fois, on entend deux fois la même chose, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'ils sont assis, on entend off le guide, et je filme tous les visages. Lorsqu'ils sont assis sur les bancs. Ouais, c'est lorsqu'on entend Perec dire, ils connaissent l'histoire de... ils savent que Gershwin, etc. Enfin, ils donnent tous les noms des gens qui sont passés par là. Et enfin, il faut retrouver le texte, je ne connais pas par cœur.
Et Ferguson
on va le retrouver. Enfin,
oui. Vous voulez regarder, peut-être que vous allez trouver plus facilement que moi.
Le plan fixe, c'est deux grands doubles veillées de faïence blanche, etc. C'est ce texte dont je vous ai parlé. Et puis... voilà. Une fois de plus, le guide raconte l'arrivée des immigrants, la montée des escaliers, les visites médicales, l'inspection des yeux, les lettres à la craie sur l'épaule présumée des malades, l'attente interminable, les 29 questions posées à toute vitesse. Il parle en marchant de long en large et les visiteurs le suivent du regard. Ces histoires, ils les connaissent depuis toujours. Ils savent qu'Irine Berlin s'appelait Isidore Balin. Ils savent, quand il arrive à Ellis Island, que Samuel Goldwyn est passé par Ellis Island, et Emma Goldman, et Ben Shahn, etc. Enfin, c'est tout ce passage-là qu'on entend deux fois. On l'entend off, tout en entendant la voix de Perec. Et je suis en gros plan sur les personnes qui écoutent. Et qui se termine par le rire de John Ferguson.
Oui, le fameux. Et justement, à propos du plan fixe, où est-ce qu'il est ce plan fixe? Dans la lingerie.
Il est sur une page de gauche.
Voilà. Est-ce que c'est celui-ci, il me semble? De grands éviers de faïence blanche. Ça, voilà, voilà. Ouais. Non, c'est pas celui-ci que je...
Là, vous voyez, la photo, je vois en train d'écrire déjà.
C'est ma photographie préférée.
Quoi?
C'est ma photographie préférée.
Ah bah voilà.
Parce que je trouve que là, le simple fait de s'asseoir sur une chaise et sur une table et d'écrire, c'est d'un coup habiter le lieu, qui était un non-lieu.
Oui.
Donc vraiment... Et
sans compter que c'est plus pratique d'écrire assis...
Ah oui, c'est plus pratique d'écrire assis, on est bien d'accord. Mais cette photographie, elle est formidable. Et à un moment, vous faites un arrêt, j'essaie de retrouver le passage, je vais peut-être pas le retrouver ici. Vous faites un arrêt, un plan fixe sur des éclairages, des luminaires.
Ah oui, plusieurs de suite.
Voilà, plusieurs de suite et vous insistez vraiment. Et moi, j'ai eu l'impression que peut-être, mais c'est peut-être une lecture qui pousse un petit peu loin l'interprétation, que derrière ces images, il y avait peut-être un souvenir de W ou le souvenir d'enfance. Le passage où Perec dit que lui aussi, il aurait aimé faire ses devoirs dans la cuisine, voilà. Sur une table avec une nappe cirée bleue, et il écrit « Il y aurait eu une suspension avec un abat-jour presque en forme d'assiette, en porcelaine blanche ou en tôle émaillée, et un système de poulies avec un contrepoids en forme de poire. » Et moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous filmez à Ellis Island.
Oui, c'est ce qu'on trouvait dans les livres de classe. Oui, c'est le passage qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas lire sans pleurer. Et je ne sais pas si j'y ai pensé ou pas, mais ça me paraissait évident. Alors, ce qu'il y a, c'est que ces lampes, moi j'ai connu chez moi aussi, il y avait ça.
Donc ça renvoyait à une autobiographie potentielle.
Je pourrais vous la dessiner. Mais ce que je voulais montrer, surtout dans toute cette série de plans, c'est le lieu où plus rien ne tenait. Ni plafond, ni sol, ni rien. Voilà, c'était l'idée de destruction, et c'est pourquoi il parle beaucoup. Et ces plans, je les ai placés lorsqu'il parle de ce qui lui est arrivé, ce que moi, Georges Perec, etc. Et c'est là où on voit tous les plans de l'Islande détruits. Voilà, c'est ce que je voulais qu'on comprenne en tout cas.
Alors peut-être que l'on pourrait terminer sur une citation de Georges Perec, qui est une citation que vous auriez choisie et que vous nous liriez.
Alors si je retrouve la page, c'est un texte de lui que j'aime énormément. Donc c'est pas la ville, c'est après. Ah voilà, alors là je change de lunettes. C'est dans Espèce d'espace, à la page 105. Alors quand j'ai lu ça le premier jour, j'ai pensé, Même si t'as rien. Vous voyez, c'est souligné, c'est même deux fois. Je me dis, voilà, ça c'est la dictée qu'il faudrait donner à tous les enfants. Alors je ne sais pas si on donne encore des dictées à faire aux enfants, vous savez mieux que moi, mais à l'époque il y avait beaucoup de dictées. Voilà. Ben, je le dis. Parcourir le monde, le sillonner en tous sens, ce ne sera jamais qu'en connaître quelques arts, quelques arpents. Minuscule incursion dans les vestiges désincarnés, frissons d'aventure, quêtes improbables figées dans un brouillard doucereux, dont quelques détails nous resteront en mémoire. Au-delà de ces gares et de ces routes, et des pistes scintillantes des aéroports, et de ces bandes étroites de terrain qu'un train de nuit lancé à grande vitesse illumine à court instant, au-delà des panoramas trop longtemps attendus et trop tard découverts, et des entassements de pierres et des entassements d'œuvres d'art, ce seront peut-être trois enfants courant sur une route toute blanche, ou bien une petite maison à leur sortie d'Avignon, avec une porte de bois à claire-voie, jadis peinte en vert, la découpe en silhouette des arbres au sommet d'une colline des environs de Sarrebruck, quatre baies hilares à la terrasse d'un café dans les faubourgs de Naples, la grande rue de Brionne dans l'heure, deux jours avant Noël, vers 6 heures du soir, la fraîcheur d'une galerie couverte dans le sou de Sfax, un minuscule barrage en travers la loque écossais, une route en lacet près de Corvol l'Orgueilleux, et avec eux, irréductible, immédiat et tangible, le sentiment de la concrétude du monde, quelque chose de clair, de plus proche de nous, le monde non plus comme un parcours sans cesse à refaire, non pas comme une course sans fin à des défis sans cesse à relever, non pas comme le seul prétexte d'une accumulation désespérante, ni comme illusion d'une conquête, mais comme retrouvaille d'un sens, perception d'une écriture terrestre, d'une géographie dont nous avons oublié que nous sommes les auteurs. Voilà, je trouve que c'est un des plus beaux textes que Perec a écrit. Voilà. Et alors, cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, Corvol l'Orgueilleux est un endroit où il y a une colonie de vacances d'enfants juifs. Mais ça, il ne le savait pas pourtant.
Il ne le savait pas.
Il le savait pas.
Eh bien, merci pour cette lecture, Robert Bobert.